Vous écoutez RFI, il est 8h30 à Paris, 2h de moins en temps universel. L'heure du journal. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour à toutes et à tous. Et notre journal débutera à New York où le Conseil de sécurité des Nations Unies évoquait une nouvelle fois hier la guerre dans l'Est de la RDC. Une guerre dans l'Est de la RDC qui vaut au Rwanda d'être régulièrement prise à partie pour son soutien apporté à la FCM23. Certains réclamaient notamment la fin du partenariat promotionnel entre Kigali et le club de foot du Paris Saint-Germain. Mais l'accord vient finalement d'être prolongé et élargi même jusqu'en 2028. Vous l'entendrez. Un cessez-le-feu unilatéral de 2 mois annoncé par le FLECFAC, le mouvement indépendantiste du Cabinda. Cette région angolaise, enclavée entre le Congo-Brazzaville et la RDC, pour lequel le parti d'opposition UNITA propose un plan d'autonomie. L'alerte lancée en Centrafrique, il faut s'attendre à de fortes pluies les semaines prochaines. Alors les habitants de Bangui notamment prennent les devants pour éviter les inondations à répétition. La présidentielle camerounaise qui se prépare, porteuse d'une initiative qu'elle veut citoyenne, la plateforme des bâtisseurs de la nation annonce le déploiement de 10 000 observateurs. Et puis les dangers des paris sportifs, vous serez peut-être nombreux à miser sur les affiches des demi-finales de la Ligue des champions de football qu'on connaît depuis hier. Mais danger, l'addiction guette, ce sera notre dossier ce matin. Le dossier a donc une nouvelle fois retenu l'attention des diplomates hier. La guerre dans l'Est de la RDC. Au menu d'une rencontre à Kinshasa, où s'est rendu pour la première fois le nouveau médiateur de l'Union africaine, le président togolais Fornia Singbe, qui s'est entretenu avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi. Alors qu'à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunissait une nouvelle fois en évoquant lui aussi la situation entre la RDC et le Rwanda. Après une tournée sur le terrain, justement, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs, Wang Xia, s'est exprimé, déplorant que les nombreux appels internationaux restent sans effet, qu'il s'agisse de ceux du Conseil de sécurité lui-même ou bien de ceux des organisations africaines comme de l'Union européenne. Correspondance, Karine Houghton.
Même s'il n'est pas venu pour cela, l'envoyé spécial du secrétaire général dans les Grands Lacs a d'emblée regretté que les déclarations d'intention de cesser le feu soient au point mort et que la situation humanitaire se dégrade si rapidement. Toutefois, l'objectif premier de Wang Xia est de transformer les récentes avancées politiques et diplomatiques en un mouvement irréversible vers la paix. Il a rendu hommage au président angolais pour le travail accompli dans le cadre du processus de Luanda et dont il souhaite d'ailleurs que les acquis soient préservés.
Je pense en particulier à l'accord sur un concept d'opération CONOPS pour la neutralisation des forces de libération du Rwanda FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda qui, s'il est appliqué intégralement, contribuera grandement à la résolution des tensions entre la RDC et le Rwanda.
Wang Xia a aussi salué la désignation du président du Togo comme médiateur de l'Union africaine pour la résolution de cette crise et demandé que les initiatives de paix soient mieux coordonnées entre les différents acteurs. La ministre des Affaires étrangères congolaise Thérèse Kayikwamba Wagner a dénoncé une impunité trop ancrée et réclamé des sanctions à nouveau. L'ambassadeur rwandais à l'ONU a redit les protestations de Kigali contre la présence de groupes armés à l'est de la RDC. Karine Houghton, New York, RFI.
Et dans l'est de la RDC, justement, une revendication de l'AFCM 23 qui a pris le contrôle de plusieurs villes. Il exige la signature d'un protocole d'accord avec la MONUSCO pour encadrer la présence de la mission onusienne dans la zone. L'AFCM 23 qui jouit donc du soutien du Rwanda, Kigali régulièrement épinglé pour cela. Certaines voix avaient d'ailleurs appelé à la fin d'un partenariat promotionnel avec le célèbre club de foot de la capitale française, mais il n'en sera rien finalement. Accord prolongé jusqu'en 2028, le Paris Saint-Germain continuera d'afficher le sponsor Visit Rwanda, tout comme le Bayern Munich en Allemagne ou les Anglais d'Arsenal, que les Parisiens retrouveront d'ailleurs pour la demi-finale de la Ligue des Champions. On fera un point sur les terrains tout à l'heure, mais pour le moment, c'est Lucie Mouillot qu'on retrouve à Kigali pour évoquer ce partenariat qui est donc amené à se poursuivre avec le PSG.
Le contrat actuel devait s'achever à la fin de cette année, mais le partenariat lancé en 2019 est renouvelé pour 3 ans supplémentaires, une collaboration qui a, je cite, « contribué de manière significative à positionner le Rwanda comme une destination de premier plan pour le tourisme et l'investissement », affirme dans un communiqué le directeur du Rwanda Development Board, Jean-Guy Africa. Un contrat prolongé malgré la pétition lancée par des supporters fin janvier, 75 000 signatures recueillies pour demander l'arrêt de ce partenariat face à l'implication de Kigali dans le conflit en RDC. En février, la ministre congolaise des Affaires étrangères écrivait également au club parisien, questionnant la moralité de ces accords. Les critiques n'avaient pas empêché le PSG de continuer la promotion de son sponsor, notamment dans une vidéo début avril où des joueurs vedettes servaient du café rwandais à leurs fans. Dans le communiqué de ce mercredi, le club annonce une visibilité accrue pour Visit Rwanda, dont le logo apparaîtra notamment sur la manche des maillots pendant la Coupe du Monde des clubs organisée cet été aux États-Unis. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Quel avenir pour le Cabinda, ce territoire angolais, enclavé entre le Congo-Brazzaville et la RDC, théâtre d'action d'un mouvement indépendantiste historique, le Front de Libération de l'État de Cabinda, le FLEC-FAC qui vient justement d'annoncer un cessez-le-feu unilatéral de 2 mois. Et cela pour soutenir une proposition de l'UNITA, parti d'opposition qui suggère une autonomie pour le Cabinda. Le FLEC-FAC annonce ainsi cette trêve dans l'espoir d'établir un dialogue avec le gouvernement angolais, Lisa Fabian.
La trêve annoncée par le FLEC-FAC vise à créer les conditions d'un éventuel dialogue avec le gouvernement angolais et à laisser une chance à l'initiative de l'UNITA. Ce cessez-le-feu est présenté comme un point d'entrée pour de possibles négociations plus poussées. Le président du mouvement indépendantiste, Emmanuel Nzita.
Depuis des décennies, nous tentons de parler avec les Angolais. Nous avons lancé 4 propositions nous-mêmes. Il est bien spécifié dans cette expression de cesser le feu. Toute violation des territoires d'où nous occupons peuvent être objet de légitime défense.
Avec son projet, l'UNITA souhaite consolider la paix et offrir une autonomie politique et administrative élargie au Cabinda. Navita N'Golo, vice-présidente du groupe parlementaire UNITA, met en avant un processus inclusif et pacifique essentiel.
Les populations de varias zones de la province de Cabinda.
Les habitants de la province de Cabinda vivent dans la peur. Ils doivent parfois abandonner leur zone de vie à cause de l'instabilité militaire qui persiste entre les forces armées angolaises et les forces du FLEC-FAC.
Le MPLA, le parti majoritaire en Angola, a réagi. Ses responsables rejettent ce cessez-le-feu puisqu'ils estiment qu'il n'y a pas de conflit armé dans le Cabinda.
Lisa Fabian, les services météo lancent l'alerte en Centrafrique. Il faut s'attendre à de fortes pluies ces prochaines semaines. Alors, les habitants de Bangui prennent des mesures, particulièrement ceux habitués aux inondations, notamment dans les quartiers sud-ouest de la capitale. Sur place, nettoyage des caniveaux, renforcement des bâtiments ou carrément déménagement pour certains. Reportage Rolf-Steph Domialeux.
Ce matin, de gros nuages noirs se forment dans le ciel. En remontant vers les quartiers riverains sur la berge en face de l'île aux singes, l'eau s'infiltre progressivement dans les quartiers. Saturnin est sur ses gardes.
Quand il pleut, l'eau entre directement dans notre maison. Nous sommes en train de faire le curage des caniveaux afin de libérer les déchets et la boue. Beaucoup de maisons fragiles ont déjà été détruites par les eaux.
Junior vit avec sa famille au quartier de Kolongo depuis 2023. La fondation de sa maison est complètement dans la boue malgré sa hauteur. Le jeune informaticien est sur le point de déménager.
La zone est assez marécageuse et chaque année, nous subissons d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Trop, c'est trop. Nous avons décidé de quitter le secteur.
D'abondantes précipitations sont attendues dans les prochains jours, selon Rodrigue Leland, directeur général de la météorologie centrafricaine.
Du mois de mars, avril, mai jusqu'au mois de juin, on doit s'attendre à des précipitations beaucoup plus soutenu que d'habitude. Je demande aux Centrafricains de suivre quotidiennement le journal Météo qui va leur permettre en fait de planifier leurs activités irrelatives.
La Direction générale de la météorologie précise également que toutes les régions du pays sont en proie à la montée des eaux. Cette situation menace fortement la bonne marche des activités agricoles. Rolf-Steph Domialeux, Bangui, RFI.
Une présidentielle, ça se prépare pour les organisateurs comme pour les observateurs. On le voit ce matin au Cameroun, où l'élection est attendue pour octobre prochain et où la plateforme des bâtisseurs de la nation annonce la mobilisation de quelque 10 000 volontaires pour superviser le scrutin. Initiative citoyenne portée notamment par l'avocate Michèle Ndoki.
Les bâtisseurs de la nation veulent répondre à une attente des Camerounais qui s'est exprimée encore plus fort après les dernières élections. On est sorti de là fatigué, déçu par la preuve de fraude massive et l'idée que le président désigné par le Conseil constitutionnel n'est pas forcément celui que voulaient les Camerounais. Donc, on a un jeu politique, on a un système électoral qui n'est pas parfait. Nous nous sommes demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Focalisons-nous sur dire ce que nous voulons et organisons-nous pour que ce que nous voulons ne soit pas travesti. Notre organisation réunit 10 000 volontaires qui seront répartis dans un échantillon représentatif de bureaux de vote qui permettront de savoir quel est le choix des Camerounais et qui permettront à cette personne d'être consciente que désormais, il ou elle nous doit des comptes sur ce qu'il fait et il ou elle doit faire beaucoup, beaucoup mieux que ce que nous avons eu au cours des dernières décennies.
L'avocate Michèle Ndoki au Cameroun. Du foot, évidemment, dans l'actu et la bonne opération pour les Gunners d'Arsenal qui ont enterré les espoirs du Real Madrid hier. Arsenal qui retrouvera donc le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions le 29 avril. L'autre demi-finale, le lendemain, opposera l'Inter de Milan victorieux du Bayern de Munich hier face au FC Barcelone. Des matchs qui feront très probablement l'objet de nombreux paris sportifs. Le phénomène est en vogue et c'est notre dossier ce matin car aussi attractif que puissent être les publicités, les dangers sont bien réels. Celui de l'addiction en premier lieu. On espère gagner gros mais on en ressort bien souvent déplumé. On le voit ce matin au Sénégal par exemple où des dizaines d'applications de paris sont proposées aux joueurs. Reportage Juliette Dubois.
Auparavant cantonné aux petites boutiques de rue appelées Narbi en Wolof, les jeux de paris sportifs sont désormais dans les smartphones de tous les Sénégalais. Les applications sont nombreuses, OneXBet, BetClick, SunuBet. Saïdina a commencé à jouer pour passer le temps.
En tant que jeune, quand on est en période de chômage et tout, on est susceptible de tomber sur les tentations et tout. Au début, tu mises de petites sommes, tu te dis que voilà, je mise 1000 francs, 500 francs, je peux gagner minimum 50 000, 100 000 francs.
Il y a deux ans, Saïdina a créé une association non aux paris sportifs pour sensibiliser et aider les personnes accros au jeu. Il reçoit de nombreux témoignages de jeunes qui s'isolent et mettent du temps avant de se rendre compte du danger, comme cet homme.
J'ai pris mes distances avec ma famille car ils n'approuvaient pas le fait que je joue au paris sportif. Aussi, j'ai emprunté beaucoup d'argent. Ma vie sociale, ça a vraiment cassé ma vie sociale, quoi. À la fin, j'ai compris que c'était une vraie addiction et c'était vraiment difficile pour moi d'en sortir.
Le neveu d'Amadou, lui, a dépensé plus de 200 millions de francs CFA, soit 300 000 euros en 5 ans. Il a pris dans les caisses de l'entreprise de son père et emprunté à des partenaires commerciaux.
Je lui remettais des conteneurs à vendre et il m'a remboursé pratiquement en 90 jours ou bien en 60 jours. Je ne parvenais pas à bien procéder au recouvrement pour l'obtention de mes fonds. Donc, son père m'a dit que pas le seul parce que beaucoup de gens viennent ici réclamer de l'argent à Moustapha et moi, je ne sais pas ce qui arrive.
Des familles bouleversées, des dépressions. Saïdina essaye d'attirer l'attention des autorités depuis qu'il a créé son association en vain. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Un problème d'addiction que connaît bien le journaliste et écrivain Pape Samba Khan. Il avait écrit en 2005 un livre d'enquête consacré au danger des casinos et des machines à sous intitulé « Le poker menteur des hommes politiques ». Il le réédite cette année en incluant la problématique des paris en ligne et il veut interpeller les autorités sénégalaises.
Je crois qu'il y a plein de mesures. D'abord, au plan individuel, ceux qui sont addicts au jeu doivent prendre conscience qu'ils ont un problème, qu'ils sont malades. En parler autour d'eux et puis consulter un spécialiste. Malheureusement, il n'y en a pas ici. Il y a un centre de traitement des addictions, mais ils ne sont pas spécialisés dans l'étude des jeux. Donc, c'est la prévention d'abord. Arrêter la publicité. Elle est intempestive, massive, utilise l'image de grands sportifs, de chanteurs. Et ça, si on arrêtait ça, déjà, il y aurait un effet. Diminuer le nombre de jeux, c'est tellement simple en France. Les gens ne jouent pas sur n'importe quoi. Le nombre de jeux autorisés en France est limité. Ici, c'est un vide. Des textes existaient avant le pari sportif qui peuvent servir à l'encadrer. Mais déjà, dans les casinos classiques, ces textes n'étaient pas appliqués. Les autorités, je leur ai écrit, ils savent ce qui se passe. S'ils n'ont pas lu, leurs collaborateurs ont lu pour eux. Aucune réaction, silence radio, un silence complice.
Le journaliste et écrivain Pape Samba Khan qui réédite donc son livre Le poker menteur des hommes politiques. Et c'est donc à Dakar qu'on referme notre dossier. Mais notre matinale continue avec André Anne Ménard.